Bonjour, bienvenue à Aime l'été, votre rendez-vous estival qui s'achève. Ici Chantal Lavoie, mercredi milieu de la semaine, notre dernière semaine parsemée de ces belles rencontres quotidiennes entre midi et 13h. C'est un bonheur encore une fois de vous présenter des invités fort intéressants, des sujets qui aujourd'hui tourneront autour de l'agriculture urbaine, mais aussi de l'autisme, que l'on essaie de mieux comprendre par le biais de la réalité virtuelle. Nous discuterons d'enjeux importants concernant la sécurité alimentaire et le développement durable, et aussi des enjeux liés à une plus grande inclusion des personnes autistes. C'est tout cela, Aime l'été. Au cours de la prochaine heure, suivez-nous à l'antenne de Canal M. Et en détail aujourd'hui, il sera question en effet d'agriculture urbaine qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Une des entreprises pionnières de la culture sur les toits, les fermes Loufa, ont continué leur expansion et ont bâti une solide expertise dans le domaine. Nous allons en discuter avec Émilie Péloquin, mais dans les prochains instants, enfin, nous allons rencontrer deux mamans d'enfants autistes, Annick Daigneault et Martine Asselin, qui se sont unies pour donner vie à un projet très intéressant pour mieux comprendre les personnes autistes à différentes étapes de leur vie. Elles ont mis leurs connaissances en arts médiatiques à profit pour développer une première application québécoise de réalité virtuelle pour mieux expérimenter le monde du point de vue d'une personne autiste. Et oui, j'accueillerai également notre chroniqueuse Élisane Pellerin, chercheuse et professeure à l'Université du Québec à Montréal. Voici votre émission Aime l'été.
Si je fais mes cils charbonneux et mes yeux de plus de lumière et mes lèvres plus écarlates, demandant à tous les miroirs si tout est comme je veux, nulle vanité je recherche, le visage qui fut le mien avant qu'il n'y ait. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Avant qu'il n'y ait le monde. Qu'importe si je regarde un homme tout comme si c'était mon amour quand pourtant mon sang est demeuré froid, mon cœur ne bat pas plus vite. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde. Avant. Mon cœur ne va pas plus vite. Pourquoi me dire cruel? Pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde.
Feu Chatterton, Chatterton, je ne sais jamais comment prononcer le nom de ce groupe-là, mais voilà, on va dire Chatterton.
Voilà.
Avant qu'il n'y ait le monde.
Merci Mathieu, Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical. Et aujourd'hui, c'est Aya Jennifer Ando qui signe la recherche de cette émission. Mais évidemment, Élisane Pellerin y est pour beaucoup dans cette tranche d'émission parce qu'on va parler pendant un bon moment d'autisme. Bonjour, Élisane.
Bonjour.
Ça me fait plaisir de t'accueillir plus tôt et on va être trois aujourd'hui pour discuter. Et on a avec nous Annick Daigneault et Martine Asselin, deux créatrices, mais deux mamans de parents autistes et qui ont créé quelque chose de formidable. Alors, on va en parler de ce beau projet, Les Pieds en haut, Loup. C'est un projet de réalité virtuelle. Alors, vous êtes, c'est pas votre première entrevue. Vous, comme vous le disiez, vous êtes pas mal rodés. Alors, on va y aller comme ça. De quoi s'agit-il vraiment? C'est-à-dire que, bon, vous avez deux enfants autistes qui étaient rendus, qui étaient à l'école, intégrés dans une école régulière. Et vous vous êtes rencontrés comme ça. Et vous avez eu l'idée, finalement, de développer quelque chose pour mieux comprendre vos enfants, chacune votre enfant. Et puis, vous aviez le souhait de rentrer un petit peu dans la tête de votre enfant. Alors, cette rencontre, comment ça s'est passé?
Mais tout est dit! On peut terminer tout de suite! Alors, cette rencontre s'est passée il y a 8 ans.
Oui.
Et suivant l'écriture d'un billet de blog, « Do you want to bounce on this? »
Ben oui, Annick, elle avait écrit un texte sur l'inclusion de son fils Maël à l'école où mon fils allait entrer en maternelle. Moi, j'étais très curieuse et un peu inquiète, je dois l'avouer, pour ça, pour mon fils qui allait rentrer. Puis tout ça,
ça comportait beaucoup de défis.
Beaucoup de défis. Fait que je me suis dit, ça serait le fun qu'on se rencontre. T'sais, j'ai proposé tout simplement qu'on se rencontre autour d'un café. Puis là, on a comme eu un coup de foudre on the spot en se disant, il faut faire quelque chose ensemble. Créativement pour parler de nos enfants, de ce qu'ils vivent, mais aussi pour faire en sorte qu'éventuellement, ça soit un bon move pour l'inclusion de nos enfants et aussi des autres personnes autistes.
Et vous aviez tout un bagage en art médiatique, les deux, quoi? Vous avez, quelles sont vos expertises chacune?
Moi, je viens du milieu de la performance, du théâtre et de l'événementiel.
D'accord.
Et pour moi, le côté expérientiel de l'œuvre était, depuis le départ, super important. J'avais cette obsession d'entrer dans la tête et dans le corps et dans la sensibilité de nos enfants. Et c'est ce que j'avais envie, par le biais d'une œuvre, de transposer, de partager personnellement, de vivre, mais aussi de partager avec le public. Et Martine, je ne parlerai pas pour elle, mais je peux quand même nommer qu'elle vient du milieu du cinéma. Et en combinant notre expertise, elle vient aussi du documentaire et tout ça, en combinant nos expériences au niveau tant de l'écriture que de toute la relation avec l'importance de la qualité narrative et de l'intégration, le embodiment d'une expérience par le biais de la performance ou de l'événement, on s'est rendu compte que la réalité virtuelle était un médium tout indiqué pour atteindre les objectifs qu'on voulait.
C'est quand même extraordinaire que vous ayez pensé à ça. Bon, évidemment, la réalité virtuelle, ça se développe, mais là, vraiment, de l'appliquer dans le cadre d'un projet comme celui-là, c'est quand même assez audacieux aussi. Alors, Élisane, toi, ta rencontre avec ces deux dames, comment ça s'est passé? Parce que c'est toi qui as suggéré cette belle rencontre.
Moi, j'étais voisine d'Annick à une autre époque de ma vie. Quand j'étais dans le 5 à 4, je suis rendue en banlieue maintenant, mais à une autre époque, j'étais fière habitante du 5 à 4 et j'habitais à côté d'Annick dans une coopérative. Donc, on s'est rencontrés là-bas. J'ai rencontré les enfants d'Annick, dont Maëlle, dont on parlait. Donc, on s'est liés d'amitié. J'ai gardé les enfants. J'ai dansé avec eux sur du Lady Gaga un peu trop souvent.
Et, Never enough.
Oui, voilà. Et parce que la musique, Annick, ça joue fort et ça joue souvent. Donc,
tu donnes des outils à mes voisins pour chialer?
Non. Les voisins Annick sont très gentils.
Sûrement.
Et donc, j'ai rencontré Martine parce que Annick faisait des projets avec Martine et on y envoyait un peu partout. Et donc, éventuellement, je me suis approchée dans une des soirées où on est ensemble et on s'est parlé. Et on est devenus amis et on a collaboré. C'est Martine qui a eu l'idée originale du documentaire dans lequel auquel j'ai participé à Radio-Canada. Donc, tout ça de fil en aiguille, on a un réseau de contacts qui se ressemble. Et on continue de prendre des nouvelles, de travailler ensemble, d'avoir des idées créatives ensemble. Donc, voilà.
C'est ça. Donc, Élisane, qui est notre chroniqueuse hebdomadaire, effectivement, qui nous parle toujours de situations en lien avec, c'est-à-dire des sujets en lien avec des situations de handicap. Alors là, on parle d'autisme aujourd'hui, je le rappelle. Et puis donc, alors c'est ça. Alors, cette rencontre, comment ça s'est passé, là, les débuts de cette... vous avez cogité, donc, pour mettre ensemble vos idées et puis, bon, développer ce projet. Alors, ça se met en place comment, ça?
Ben, il y a 8 ans, donc...
Ben, c'est ça, si on remonte à 8 ans, là...
ça fait long.
Ben, c'est sûr, parce qu'on a encore bien, on a bien du temps, justement. C'est ça qui est le fun, de voir tout ce processus, finalement.
Donc, comment ça s'est passé? C'est qu'on a d'abord eu l'idée de réaliser un projet qui était plus linéaire. On voulait valoriser l'apport de nos enfants dans la communauté, montrer aussi que la communauté était les beautés qui émergeaient pour elles-mêmes quand elles se donnaient la peine de faire l'inclusion de nos enfants puis de mieux comprendre la neurodivergence. Ensuite, c'est ça, avec cette obsession qu'on avait de vivre de l'intérieur, on disait « ça serait cool d'avoir une installation ou un projet qui permet d'entrer à l'intérieur. » Et on va faire un projet convergent parce que c'était la seule manière, jadis, de financer. C'est lent quand même, les transformations dans les instances de financement, dans le système et tout ça. Fait que on était... À la base, on était dans les rares femmes qui faisaient de la VR, puis on était dans une espèce d'espace d'innovation, mais pas assez innovant et sexy au niveau gear et technologie et pratique pour avoir le cash sur l'innovation, puis pas assez, mais trop pour les cases de financement. Donc, on essayait de faire des projets convergents, on écrit des projets documentaires, éventuellement, on a tout élagué ça pour se concentrer sur la réalité virtuelle. Ouais. Et...
était en émergence à ce moment-là, oui.
C'est une vieille patente. Hein? Ouais, moi, quand j'étais à l'université dans les années 90, on parlait déjà de réalité virtuelle, mais c'était tellement... Ça prenait un ordinateur de la taille de la pièce dans laquelle on se trouve pour faire rouler une expérience qui ressemblait à un paquet de triangles collés ensemble. T'sais, fait que c'était vraiment pas intéressant au niveau de ce que ça pouvait représenter de la réalité.
Puis ce qu'on connaît, bon, avec les casques, ça s'est développé aussi quand même lentement. Ça coûtait très cher au départ.
Oui, tu sais, vers les années 2010, ça a commencé à être de nouveau accessible. Puis là, les gens ont commencé à en avoir plus à la maison. Fait que nous autres, en 2016, tu sais, on se disait, bon, la technologie commence à avoir de l'allure par rapport à ce qu'on veut en faire. Ça a commencé, là, puis ça a beaucoup évolué depuis le
Mais oui, c'est ça. T'sais. Donc, c'est ça. Il y a le Centre Phi qui en fait beaucoup, en fait, qui en diffuse beaucoup. Alors, c'est tout ça aussi. Il faut tout de même... vous voulez amener ça dans les écoles. Alors, c'est sûr que ça prend quand même cette technologie-là qui est accessible. Et bon, ça vous prend des casques. Alors, vous avez même fait du sociofinancement aussi.
Bien sûr.
À un moment donné.
On n'avait comme pas le choix.
Le sociofinancement, c'est une action de financement, certes, mais c'est une action de communication aussi, tu sais, puis de mobilisation de ta communauté où tu parles de ton projet, de où est-ce que tu es rendu, tu mobilises les gens, tu sais, tu fais parler du sujet aussi pour lequel tu fais du sociofinancement. Donc, à toutes les étapes, quand on a pris la parole publiquement, quand on partageait, quand on a, c'est ça, mobilisé le village, ben c'était une façon, à ce moment-là même, de sensibiliser. C'est comme si le projet, avant même d'exister, faisait déjà œuvre de sensibilisation et œuvre utile. À différentes étapes, le projet, tu sais, on s'en rendait compte dans les équipes de travail, avec les geeks avec lesquels on travaillait, avec les gens avec lesquels on collaborait, quand on pitchait dans différents festivals ou événements, ben on avait, il y avait des réactions ultra sensibles, tu sais, et ça faisait déjà parler et réfléchir.
C'est ça.
Ça transformait les pratiques avant même que le projet existe.
Voilà.
Il transformait les perceptions.
C'est ça. On en reparlera parce que votre projet, évidemment, a été vu bon, un peu partout aussi. Hein? Ben, c'est un projet qui voyage. Et puis toi, Élisane, bon, je sais qu'il y a eu beaucoup de rencontres avec des jeunes, en fait, des personnes autistes. Hein? Il y a eu tout ces rencontres pour vraiment donner la parole aussi beaucoup à ces gens-là. Puis finalement, on parle de jeunes, mais finalement, c'est un projet à long terme. C'est-à-dire que là, on parle de différentes étapes aussi. des personnes autistes. Alors, autant dans l'enfance, mais aussi, là, vous voulez l'amener à l'âge adulte. Je pense que là, vous êtes à travailler là-dessus, là, présentement.
Oui, on travaille actuellement la scénarisation de la vie adulte, mais il y a eu beaucoup d'informations qui ont été partagées dans la dernière minute.
Alors,
je vais bouncer là-dessus, c'est parce que c'est important, le côté inclusion pour nous. On ne voulait pas faire... Moi, je suis neuroatypique, mais je suis
non autiste. Regard, c'est ça, c'est pas votre regard à vous que vous vouliez montrer finalement. C'était vraiment le point de vue des personnes autistes.
Oui, mais évidemment, notre point de vue d'artiste est là. T'sais.
Oui, oui. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien que le premier volet, c'est la mère et son fils. Tu sais, oui, on a décidé de faire un enfant autiste non-verbal, mais la mère, c'est un petit peu notre alter ego aussi. Tu sais, veux pas, parce qu'on est en relation avec notre enfant. On a à sensibiliser les gens à son fonctionnement quotidiennement.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, c'est vraiment aussi une façon de nous prendre une place aussi dans l'œuvre parce qu'on existe dans la vie de ces enfants-là. Donc, dans l'enfance, la maman est beaucoup là, mais dans l'adolescence, l'enfant vole de ses propres ailes. Mm-hmm. La maman est encore là, mais tu sais, elle est moins importante. Puis c'est lui qui parle en son propre nom.
Ah, voilà. Mm-hmm.
Voilà.
Mais quand même, la présence de notre vision, on peut pas... Tu sais, quand tu crées une œuvre comme artiste, comme créatrice, tu peux pas te dissocier complètement, là, dans le sens qu'on n'a pas transposé de façon neutre les propos et les témoignages des personnes autistes. On s'est permis une interprétation métaphorique, poétique. On a jazzé là, les informations qu'on a reçues parce que, de toute façon, il y a des trucs quand tu le transposes dans le casque de réalité virtuelle. C'est comme comment tu amènes une personne neurotypique à faire du flapping, à agiter les bras comme un petit oiseau, par exemple. C'est pas naturel et c'est pas un réflexe dans une situation de surcharge.
Ouais. C'est une façon un peu pour les autistes de se calmer. Hein? En fait, c'est quelque chose que l'on voit fréquemment.
Oui.
Ben, de battre les ailes comme ça.
Oui, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, on a...
De traiter l'information. Je regardais toi, il y a eu un petit frère. Mais genre, de battre des bras, par exemple, c'est ça le geste de flapping. C'est un des gestes pour s'autoréguler, entre autres pour trier l'information. Nous, on l'a amené à un paroxysme dans l'œuvre pour faire en sorte que les personnes neurotypiques s'engagent et réagissent.
Mais... Exactement. Fait que, tu sais, comme spectateur, tu as à apprendre comment ton personnage fonctionne, puis tu as à fonctionner de la même façon dans l'œuvre. Fait que, comment on fait pour suggérer une surcharge à une personne qui n'est pas autiste, ben nous, on a créé un procédé, comme on dit, métaphorique, mm-hmm. dans lequel la personne est immergée et à un moment donné, elle se retrouve complètement coupée de son environnement de façon progressive par une espèce de grosse tempête qui embarque. Puis là, tu te ramasses dans le vide comme utilisateur, tu es sur une petite plateforme, puis il y a un vide sous toi, en haut de toi, tu es dans nulle part, puis tes mains deviennent des ailes. Puis là, tu te mets à flapper parce que la narrativité t'a expliqué aussi ou t'a fait comprendre que ce geste-là fait du bien. Fait que là, tu le fais, puis là, oh, tu vois la transformation se produire dans l'œuvre autour de toi, l'environnement redevenir visible, toi, recadrer les choses, revenir à la réalité qu'on suggère dans l'œuvre.
Élisane, toi, est-ce que tu as eu l'occasion de vivre l'expérience?
Oui, j'ai été parmi les premiers à l'avoir testé quand il était au tout début. Il a beaucoup évolué depuis, mais quand même, je l'ai testé, je m'en suis jamais remise. C'était la première fois que je faisais de la réalité virtuelle. Et pour moi, qui est encore en train de capoter sur les écrans tactiles, parce que je suis encore en train de trouver ça vraiment formidable, imaginez-moi avec un casque de réalité virtuelle en train de faire
c'était
ça.
C'était tout un choc.
Oh mon Dieu, je m'en suis jamais remise et j'aimerais ça en avoir dans mon salon, mais pour des raisons de sécurité, j'en ai pas acheté parce que c'est sûr que je me casse les dents si j'en ai dans mon salon.
Tu te ramasses par terre, sans doute.
C'est sûr. Mais sur quelque chose d'un peu plus sérieux, Annick, tu disais, tu sais, malgré vous, vous devenez militante pour vos enfants. Vous êtes des militantes actives dans la société pour les droits de vos enfants que vous devez sans cesse répéter. Et pour leur inclusion, et on voit un peu ça dans l'œuvre que vous avez, mais aussi on voit que, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et je vous connais personnellement, comme on a dit tout à l'heure, on voit que vous vouliez changer le regard sur les personnes autistes et les personnes différentes un peu plus largement, dans l'optique où on les voit dans la société comme étant... des problématiques ou des personnes qui ont une difficulté, on voit ça très négatif, mm-hmm. alors que pour vous, en fait, l'autisme est quelque chose de positif. Les enfants sont différents. mais ils ont des grandes forces, et c'est sur ça que vous essayez aussi de passer le discours, c'est-à-dire d'arrêter de voir ça comme étant nécessairement négatif que d'être différent.
Un drame humain, là. Oui, voilà. Il faut tout le temps que ce soit être fatal.
Mais c'est vrai qu'il y a aussi...
Il y a un fatalisme, oui, c'est
ça. Mais il y a autant d'autistes, enfin, que dans le sens qu'on est... Ce sont tous des gens très différents, là, les personnes autistes. Alors, c'est comme les différences au niveau des êtres humains, là. Donc, il n'y a pas un autiste qui est semblable.
Oui, parce que, genre, ce sont des humains.
Eh bien, oui.
Dans le fond, c'est qu'on fait aussi beaucoup... tu sais, j'ai l'impression là, qu'on regarde l'humanité avec comme s'il y avait deux cercles. Genre, il y a les personnes neurotypiques dans leur... spectre, puis il y a les personnes qui ont un diagnostic dans leur spectre. Alors que l'humanité au complet est un spectre. C'est, ce grand cercle-là, genre de la neurodivergence, inclut les personnes aussi dans ce spectre-là neurotypique. C'est comme, fait que là, des fois, on va toucher un petit peu plus de caractéristiques ici, un petit peu plus de caractéristiques. Là, il y en a qui sont un petit peu plus dépressifs. Là, ici, il y en a, ils sont autistes. Ici, là, on a un handicap intellectuel. Mais dans le fond, l'humanité, c'est un spectre. Puis on n'est pas divisé comme on tend à le représenter socialement. Et oui, il y a des forces, oui, il y a des défis. Non, on ne les nie pas, les défis. Et bien sûr qu'il y a autant de personnes, de formes d'autisme qu'il y a de personnes autistes. Par contre, il y a des caractéristiques et des bases communes. Et c'est là-dessus qu'on a misé, nous, dans notre œuvre. On a fait des choix de représentation.
Tout à fait. T'sais, on s'est inspiré à la fois de nos enfants puis de témoignages qu'on avait eus de d'autres personnes autistes au fil de notre processus de recherche puis de création. Je pense que c'était important pour nous de l'affirmer que chaque personne autiste est différente. On a, of course, pris des choses qui pouvaient bien s'illustrer dans le médium qu'on a choisi. T'sais, on est dans un médium hyper sensoriel. Fait qu'on a misé sur des choses aussi qui pouvaient bien se représenter puis faire vivre des choses au niveau sensoriel. L'interaction aussi avec les autres qui nous regardent, c'est le fun en réalité virtuelle. Tu le sens bien. T'sais, le jugement, ça se représente. Après ça, le dialogue avec d'autres personnes, il y a des choses qu'on pouvait jouer avec assez bien. T'sais. Après ça, représenter des processus mentaux, ça présente des défis.
Bien fait sûr, parce que ça, c'est plus abstrait, finalement.
Exactement.
Alors, il fallait transposer ça en images.
Exactement.
D'ailleurs, vous avez travaillé avec... il y avait quand même quelqu'un de l'équipe qui était aussi autiste, au niveau de l'aspect...
la sonorisation.
La sonorisation et tout, là, finalement. Oui, c'est ça.
Oui, oui. Puis ça a été super intéressant qu'il soit là puis qu'il puisse nous partager. Puis en plus, c'est une personne autiste qui a une sœur autiste qui a un fonctionnement différent de lui.
Ah.
Fait qu'il y avait comme deux levels de...
Oui,
c'est le fun de pouvoir avoir son feedback sur plusieurs niveaux. Puis c'est un jeune homme qui est passionné de cinéma. Donc, toute cette sensibilité esthétique, narrative de l'image, du son, de sa disposition dans l'espace, c'était des choses aussi qui l'intéressaient. Fait que... C'était une belle collaboration, puis c'était intéressant de l'avoir à bord avec nous aussi, oui.
Puis c'est un bon exemple d'intégration aussi, de dire que ces gens-là, justement, on peut utiliser leurs forces à notre avantage.
Oui.
Mais toi, tu me disais comme si c'était évident. Bienvenue dans la société, Annick. Les gens ne voient pas ça. Ne voient pas ces gens-là comme étant nécessairement des gens qui ont des forces et qu'on peut prendre dans le milieu du travail et qui vont travailler aussi bien, sinon mieux, que des gens qui sont neurotypiques ou qui n'ont pas de handicap. Et donc, c'est vraiment un exemple pour moi d'intégration réussie qui montre qu'on peut utiliser les forces de chacun pour arriver à un projet qui fait du sens.
Ben tout à fait. T'sais. Puis des fois, je veux dire, les réunions, on a adapté le rythme. J'ai eu des phases nous, on est rendu un vieux couple. Fait qu'on a vécu toutes sortes d'affaires dans nos vies personnelles qui ont quand même teinté aussi la collaboration, créé plus ou moins de défis. Fait que... des fois, le rythme des meetings n'était pas adapté parce que Louis-François avait besoin, c'est moi qui en avais besoin. Fait que, tu sais, c'est comme, on est des humains, on vit des réalités, on a des fonctionnements, des sensibilités distinctes. Et dans le fond, c'est juste de créer des espaces dans lesquels il y a du dialogue et une certaine souplesse. Mm-hmm. Tu sais, la norme, j'y crois pas vraiment, dans le fond. Tu sais, comme quand on regarde une classe puis qu'il y a 11 plans d'intervention sur 23 élèves, genre, cette norme-là, elle fait de plus en plus, elle fait de moins en moins de sens à, genre, être revendiquée comme ça devrait être ce fonctionnement-là auquel on adhère, tu sais. Fait que, dans une équipe, pour moi, c'est juste normal qu'on trouve des moyens de s'assurer que tout le monde peut contribuer à la hauteur de ses compétences, de sa richesse. On peut tous enrichir les projets puis les équipes avec nos distinctions. Puis nos défis, ça fait partie de notre condition, c'est tout.
Oui, et vous avez une vision qui est très, très ouverte, là, comme on vient d'entendre. Puis je sais que c'est un peu vos enfants qui vous ont mené vers une ouverture. C'est leur diagnostic qui ont fait en sorte que vous êtes formée à ça et que vous êtes ouverte à ce milieu aussi, qui ont fait en sorte que vous soyez particulièrement ouverte et réceptive à toutes sortes de choses qui ne sont pas dans la norme. Si
on... Bien, c'est clairement, ça a vraiment été un grand apprentissage aussi de connaître, on est devenus des expertes par la force des choses.
Oui,
de
voilà.
Comme ça, tous exactement. Les parents, je pense, d'enfants différents.
Oui, clairement.
On avait déjà cette sensibilité-là. Tu sais, je regarde Annick, elle était beaucoup dans le milieu communautaire, tu sais, en train de faire beaucoup de travail avec les jeunes marginalisés. Tu sais, même chose, moi, mes documentaires étaient souvent sur des gens marginalisés à qui on donnait la parole. Tu sais, fait que je pense qu'on avait
déjà cette sensibilité. Ouais.
Mais on est tombé dedans.
Et on est devenu rade.
Vos enfants, vous avez choisi comme maman.
Oui, c'est ça.
Ils ont fait une sélection, puis ils ont bien choisi parce que clairement, ben oui, vous aviez déjà cette ouverture-là, mais je sais quand même que, voyons, avoir un enfant, de toute façon, ça change la vision, mais avoir un enfant qui est différent, d'autant plus, souvent, c'est même pas lui en tant que tel, c'est vraiment la société autour qui vous force à devenir militante, à avoir des combats, à avoir des choses qui sont très bureaucratiques, à devenir des passionnés de formulaires. Ou un
c'est ça. Mais c'est par des gestes comme j'adore. Ça, finalement, que les choses évoluent. Mais on continue à en parler, bien sûr. On a encore du temps. C'est merveilleux. Alors, les filles, on s'arrête pour le temps d'une pause et on revient tout juste après.
Aime l'été.
Et on continue avec Martine Asselin, Annick Daigneault, deux mamans d'enfants autistes qui ont développé l'œuvre de réalité virtuelle Les Pieds en haut, Lou. Alors, c'est une œuvre qui a été présentée un peu partout dans le monde, à Prague, aux États-Unis. On y reviendra. Mais en fait, c'est une façon finalement de permettre de mieux comprendre l'autisme à travers les yeux d'une personne autiste aussi, de visualiser qu'est-ce que ça peut, à quoi ça peut ressembler finalement. Et je suis aussi avec Élisane Pellerin, qui est notre chroniqueuse hebdomadaire, qui vient toujours de nous parler de sujets en lien avec des situations de handicap. Eh bien, c'est ça. Cette œuvre, bon, ça a été, les filles, ça a été présenté effectivement un peu partout, là, aux États-Unis, à Prague. Donc, vous avez gagné des prix, hein, faut le dire.
Ben, c'est cool, on est reconnaissante. C'est pas chaque fois que tu travailles fort comme artiste que ton œuvre est reconnue. Fait qu'on est...
Très reconnaissante de tout ça, oui.
Et fière.
Mais ça encore là, ça contribue à, finalement, à diffuser de l'information,
exact.
À faire connaître davantage l'autisme. Alors ça, c'est important, c'est de ça dont on parlait tantôt.
Oui.
Et puis, bon, là, Annick, avant, c'est-à-dire c'est Martine, oui. Est-ce que c'est Martine ou Annick? Ben là, c'est parce que j'ai changé de feuille. C'est Annick qui est à côté de moi. Alors, Annick, vous avez, bon, hors d'onde, on parlait de votre fils qui était dans une école, qui était intégré finalement dans une école régulière. Là. Maintenant, vous avez dû le placer dans une école plus spécialisée. Dites-moi pourquoi. Bon, est-ce que c'est un échec ou comment ça fonctionne là?
OK. Donc, dans le fond, Maëlle a fait les quatre premières années de sa vie. C'était le premier enfant diagnostiqué autiste à être inclus en milieu régulier, en école alternative, à Rose-des-Vents. J'ai refait mon premier cycle du primaire. J'ai accompagné mon fils vraiment beaucoup. Et on a mis en place des ressources, l'ergothérapie, tout ça. Des fois, on était 11 autour de la table pour soutenir et faire les plans d'intervention. Après 4 ans, Maëlle a dû passer à un groupe spécial dans une école régulière. Donc, il a changé d'école. Et ce n'était pas un échec, c'était un succès, les 4 années, il n'y a pas de S à 4. Donc, les 4 années qu'on a vécues à Rose-des-Vents, la communauté s'est impliquée, tout le monde célébrait les réussites. Maëlle a fait des apprentissages qui lui restent encore aujourd'hui. Ça a permis de développer sa personnalité. Il a été validé dans ses intérêts spécifiques. Ça a été utilisé comme moteur plutôt que les professeurs de se battre contre ça en faisant comme « il est rigide ». Ils ont fait « il tripe ses sorcières, on va faire un projet avec ça ». C'est devenu un véhicule, son dragon est devenu un véhicule plutôt qu'un monstre à abattre. Et par la suite, il est entré à l'école secondaire dans une classe adaptée. Mais il suivait encore, il était en modification, mais il suivait encore le programme. Après 3 ans, il a été mis dans un groupe qui, dans le fond, le programme, c'est FPT. Et ce programme-là, à la base, n'a pas été conçu pour les personnes autistes. Il a été conçu pour les personnes neurotypiques qui ont des particularités, des défis d'apprentissage et des défis au niveau comportementaux, ou enfin bref. Et c'est une formation préparatoire au travail. Le programme est délivré avec une certaine rigidité. Nous, là, les personnes neurotypiques, on aime ça, dire des personnes autistes qu'elles sont rigides, mais j'ai pas vu plus spectaculairement rigide que toutes les gens qui font les programmes et les personnes neurotypiques dans la société.
Bon, d'accord.
Fait que, bref, mon enfant, il fitait, évidemment, après 1 an, il fitait plus dans le programme parce qu'on exigeait de lui qu'il y ait un niveau d'autonomie ou de fonctionnement qui n'a pas rapport avec ses aptitudes. Le programme n'était pas habileté et le milieu n'était pas habileté à assouplir en fonction des besoins de notre enfant. Et on a été contraints à changer d'école. Par bonheur, à Montréal, on a la chance d'avoir des très, très beaux milieux, des super bonnes ressources, puis des gens extrêmement dédiés. Mon fils s'en va à Irénée-Lucier. Et ce milieu-là, c'est des gens extrêmement compétents. Il y a une grande équipe. Ils connaissent, tu sais, les différentes façons d'être un être humain et la neurodivergence. Il y a des outils, tout ça. Puis l'école va être super belle. Elle vient d'être rénovée. C'est extraordinaire. Je suis reconnaissante. Je reconnais nos privilèges. Ceci dit, est-ce que je considère que mon fils est en échec? Non. Mais est-ce que je pense que socialement, on est en échec? Permettez-moi de sacrer en onde. Hostie, oui. On est crissement en échec. C'est ce qu'on fait avec nos enfants, en n'assouplissant pas nos programmes, en n'assouplissant pas nos manières de faire, en n'ouvrant pas davantage, en reconnaissant pas leurs particularités d'apprentissage, puis en n'ajustant pas ce qu'on offre, ben échec. Et échec à l'intégration, échec à la reconnaissance positive de la neurodivergence, échec à la collaboration, échec à l'enrichissement de la société par nos différences.
Oui, ah oui, c'est trop. On est encore dans la ségrégation. On est encore en train de mettre à part les personnes.
C'est trop compartimenté, oui. Finalement. C'est ce que vous êtes en train de dire.
Oui.
Alors, on ne travaille pas nécessairement assez en commun et puis pour réunir tous ces gens-là, enfin. Mais ce serait quoi le dénominateur commun, là? Qu'est-ce qui pourrait fonctionner d'après vous, là?
Bien, l'individu devant nous. Tu sais, on prend les besoins de l'individu devant nous, peu importe, là.
Et ça compte pour les enfants autistes, ça compte pour les enfants handicapés, ça compte pour tout le monde, voilà. Ouais. Je pense que l'école en tant que telle est beaucoup trop rigide pour tout le monde. C'est-à-dire que les élèves qui sont là ont tous des besoins qui sont particuliers et ont tous des difficultés et des forces sur lesquelles on doit être capable de jouer. Ouais. Être capable de voir l'enfant comme étant un être qui a ses forces et faiblesses et qui est unique lui-même. Ouais. On essaie de faire un programme qui convient à tout le monde, ce qui est impossible. Ce qui fait que dans les faits, chaque enfant qui en tout cas, dans ma tête à moi, j'ai des enfants qui décrochent, et dans l'instant qui ont des difficultés à l'école, qui sont pas motivés, qui ont des problèmes psychologiques à cause de l'école et tout ça, c'est un autre échec du système, même s'ils sont pas autistes ou en situation d'handicap.
Mais ça veut dire donc des professeurs qui, finalement, est-ce que c'est parce qu'on manque de ressources? Est-ce qu'un professeur pourrait répondre à des besoins particuliers, finalement, avec plusieurs besoins particuliers dans sa classe?
Moi, je trouve ça super intéressant que vous ameniez ça. Je ramène un peu dans le temps. Moi, en 2014, il y a eu des consultations l'idée par les libéraux sur la réussite éducative. Puis avec 2 autres mamans de Québec, on a rédigé un mémoire qu'on a déposé, qu'on a présenté. On a rencontré les directeurs de programme. Dans le fond, une de nos recommandations était, il y avait la diminution des ratios. Il y a l'individuation au niveau, genre, de ce qu'on offre comme enseignement. À l'école alternative, nos enfants sont en individuation. Il y a un programme, il y a des objectifs globaux sur le premier cycle et sur le deuxième cycle. Mais c'est possible d'avoir des classes dans lesquelles on fait l'individuation. Et il y a, à la formation initiale, il y a un enjeu. Pourquoi est-ce qu'on offre encore, alors qu'on a la moitié des classes qui ont des plans d'intervention, donc des particularités neurocognitives ou encore d'apprentissage, ou whatever it is, comportemental? Et on continue d'offrir à la formation initiale juste enseignement, alors que tout le monde devrait faire adaptation scolaire avec des spécialisations autisme ou handicap.
Il faudrait offrir des formations particulières aussi pour les enseignants, c'est
ça? En fait, ça devrait, l'enseignement devrait plus exister. Ça devrait être adaptation scolaire pour tout le monde qui veut aller enseigner. Ça devrait être une base. C'est la base. Oui, c'est ça.
Et non seulement ça prend des ressources, il faut arrêter de couper dans les services. Hein? Bon, à la base, ressources, oui, ça prend plus de ressources, mais ça prend aussi une vision qui est radicalement différente. Mm-hmm. Il faut revoir notre vision des choses. Donc, non seulement avoir plus de ressources, mais aussi revoir la façon dont on voit l'éducation et dont on voit les objectifs d'éducation de ces enfants-là.
Ouais.
Et donc, c'est un gros travail, mais c'est un travail qui peut se faire si on s'y met tous ensemble. Mais pourtant, quand on parle de changement, ben on se bute à des personnes, tu disais, à des personnes qui sont très rigides parce qu'ils croient en leur système. Et pourquoi ils croient à leur système? Parce qu'ils ont toujours fait comme ça, tout simplement.
Oui, mais c'est ça. C'est parce qu'il faut changer de façon de voir. Tu sais, l'accessibilité universelle, tu sais, c'est comme quelque chose qu'on devrait comme toujours penser de même.
Mm-hmm.
Est-ce que ceci, autant les lieux physiques, mm-hmm, que l'apprentissage, est-ce qu'il est universellement accessible à tout le monde qui est ici? La réponse, c'est
ça. Et ça peut être même les lieux physiques, ça, on en a parlé.
Oui, oui, tout à
exactement.
Fait.
Donc, de faire de la construction universelle, enfin, ça commence aussi par les écoles, bien entendu. Mm. Mais évidemment, quand on a un ministre qui dit, bon, ben l'important, c'est d'avoir au moins un adulte dans la classe, c'est sûr que... on parle de loin,
envergure.
Là, présentement. Là,
envergure.
C'est sûr. Oui, c'est sûr que là, avec la rentrée scolaire actuelle, ça laisse pas mal de gens insécures. Please. Et des gens comme vous, ben là, vous avez de quoi vous poser des questions très sérieusement. Mais enfin, alors, évidemment, l'autisme, c'est une différence neurologique. Ce n'est pas une maladie. Ça, il faut que les gens en soient conscients. Et je pense qu'on en est conscient de plus en plus, bien sûr. Mais avec cette œuvre de réalité virtuelle, comment on pourra la consulter? Vous allez faire une tournée des écoles aussi?
Bien, on aimerait ça. Mais là, pour l'instant, on y va avec les milieux qui sont intéressés à le diffuser. Fait que, tu sais, on invite les gens à l'écoute qui sont intéressés à communiquer avec nous. On a un site web, lespiedenhaut.com. Là-dessus, vous avez la section contact. C'est possible de nous envoyer un coucou. Puis là, on va regarder avec vous c'est quoi votre milieu, c'est quoi vos besoins. Puis on va vous proposer une activité, que ce soit une activité d'atelier, accompagnement pour la diffusion. Il y a des milieux qui veulent aussi avoir des licences pour le diffuser de façon permanente. Il y a plein de choses qui sont possibles. Donc, on fait aussi des présentations dans divers événements au Québec.
Oui, et puis là, on a parlé de festivals, que ce soit en Europe ou aux États-Unis.
Exactement.
Aussi. Donc, ça permet... Ben oui, c'est ça, il faut vous suivre, bien entendu. Alors, c'est magnifique ce que vous avez accompli. Et puis, je pense que ça change même quand ça a été présenté à d'autres jeunes aussi. Ça a ouvert les esprits. Et puis, tout le monde qui voit, je pense, votre œuvre, ça change complètement la perspective. Hein. Je pense que les gens, c'est un choc, hein, n'est-ce pas, Élisane?
Oui, mais et souvent, tu sais, on pense que c'est les jeunes qui ont besoin d'être sensibilisés. C'est surtout les adultes. De ma propre expérience, les jeunes sont très ouverts, vont poser des questions, mais tout à fait innocemment, juste pour s'informer. C'est les adultes qui ont besoin d'ouverture d'esprit. Donc, je pense que c'est par beaucoup, beaucoup par les adultes que ça passe. C'est par l'éducation qu'on fait à nos enfants. Donc, évidemment, ça va servir aussi à sensibiliser les enfants, c'est tant mieux. Mais je pense que c'est surtout les adultes qui ont besoin d'être sensibilisés. Et tu disais tout à l'heure d'être moins rigide et de revoir leur rigidité et de mettre des priorités dans ce qu'il faut être rigide ou non dans notre vie, puis de ce qui est grave ou de ce qui n'est pas grave dans la vie.
Exact. Et puis tous ceux qui font les programmes scolaires, évidemment, là aussi, ça leur prend beaucoup d'ouverture également. Puis il faut travailler avec des gens comme vous qui êtes vraiment très concernés intimement pour peut-être développer de meilleurs programmes, effectivement, puis travailler plus dans les spécificités de l'enfant que d'aller vers quelque chose de plus global, au fond, qui ne correspond pas à tous. Et d'ailleurs, Annick, c'est ça, votre fils en fait un peu les frais parce que finalement, mm-hmm, il a dû quitter un peu le monde, de l'école régulière pour aller dans une classe plus spécialisée. Heureusement, quand même, mais même l'école spécialisée ne répond pas parfaitement non plus à vos besoins. Alors, on part de loin. Merci d'avoir été là, Annick Daigneault, Martine Asselin, ces deux créatrices là qui ont conçu cette œuvre Les pieds en haut, Lou, c'est comme ça que ça se dit, en fait, deux points, Lou. Lou, en fait, bon, au début, ça, c'était Matisse, hein, et puis ça a évolué, le projet, c'est devenu Lou,
Matisse
au lieu de Matisse.
Non,
mais Matisse existe encore?
Oui, oui, oui.
Ah, d'accord.
C'est pas devenu... C'est, dans le fond, Les Pieds en haut, c'est devenu une collection d'œuvres.
Ah, d'accord.
Donc, on a créé Matisse.
C'est un autre personnage, c'est vrai. C'est pas le même personnage, tout simplement. Parce que vous l'adaptez aussi selon l'âge des... évidemment, ce que ces jeunes-là vivent aussi, en fait. Ouais, c'est
Puis on utilise aussi des caractéristiques différentes d'une œuvre à l'autre. Tu sais, Matisse, ça a été une première étape de travail avec une technologie X. Lou, c'est sur une nouvelle étape avec une technologie Y, puis la technologie évolue constamment.
Exactement.
Le prochain chapitre sera, on ne sait pas sur quoi encore.
Je comprends.
Si vous voulez utiliser mon nom, je vous le donne.
Bon, ben merveilleux. Alors, ben écoutez, merci d'avoir été des nôtres.
Merci.
C'est un grand plaisir. Merci, Élisane.
Merci
pour ta collaboration.
Merci.
Merci.
All of the boys, well, they fled to the west. You give me your love, but your love is undressed. And your body's a shame. Weight of the game has easily pinned you as fast as you blame. And I know it's my life only. It's my life. You're my girl. This wouldn't dare to change my world. Well, it's not getting by. Oh, it's not that easy, you and I. So can you help me to feel the way we could again? All my life I'm your lover. Gospel of witness, they hurry the news. Escape from Ventura, she's no good to you. With the old ways dying, what more have we got? Except a postcard make her happier, but all of my life, it's my life. Oh.
Le groupe s'appelle Diane Coffee et la chanson, c'était Not That Easy.
Et je reçois à l'instant Émilie Péloquin pour parler des fermes Loufa, qui est une entreprise d'agriculture urbaine hydroponique située à Montréal. Bonjour!
Bonjour!
Eh bien oui, c'est une... En fait, vous êtes des pionniers dans l'agriculture urbaine, il faut le dire, là. Et on disait que Montréal, dans un article récent, on disait que Montréal était la capitale mondiale de l'agriculture urbaine. Semble-t-il qu'il y en a beaucoup?
En effet, il y a une énorme concentration de fermes urbaines à Montréal. On a beaucoup de chance.
Ben c'est ça, donc des fermes de toutes sortes. Évidemment, il y en a qui se consacrent à toutes sortes de choses. Évidemment, vous avez été les pionniers. Alors, c'est une belle aventure que vous avez commencée il y a quand même un certain nombre d'années.
Oui, il y a déjà 12 ans de ça. Donc, on a construit notre première serre en 2011 dans le quartier du marché central à Antic, à Montréal. Puis, on en est maintenant à notre cinquième serre avec une ferme intérieure aussi.
Ben, c'est ça, effectivement. Donc, ça s'est considérablement développé. En fait, c'est un phénomène aussi mondial, en quelque sorte.
Oui, exactement. L'agriculture urbaine se développe vraiment partout dans le monde. Je pense que les gens comprennent l'importance de la transparence dans le système alimentaire, dans la provenance de leurs aliments. Et nous, au Ferme Moussa, on veut changer le système alimentaire actuel. On veut faire en sorte qu'il y ait plus de transparence, que les citadins, surtout, aient accès à de la nourriture fraîche, locale et responsable. C'est pour ça qu'on construit nos serres en ville, sur des toits.
C'est ça. Donc,
on met à profit.
Oui, c'est ça. Donc, vous mettez vraiment à profit tout ce qui peut accueillir, finalement, ces fermes urbaines. Alors, les toits, c'est une bonne avenue depuis fort longtemps. Et puis, ça se développe un peu partout. Là, il y a l'agriculture urbaine verticale qui se développe aussi au niveau mondial. Il y a plein de projets comme ça à travers le monde.
Exactement. Oui. Nous, on ne fait pas nécessairement de l'agriculture à la verticale. C'est plus à l'horizontale, mais on utilise des systèmes en hydroponie, donc on cultive dans de l'eau, et ça fonctionne très bien et c'est assez efficace en termes de coûts et de production.
Oui, malgré tout, parce que bon, on dit que l'agriculture hydroponique, quand même, il y a beaucoup de consommation au niveau de l'eau, il y a aussi au niveau énergétique, mais vous essayez quand même d'être le plus éco-responsable dans cette production-là.
Exactement. Alors, même si on cultive en hydroponie, on utilise de l'eau, c'est un circuit presque fermé. Donc, on recycle à peu près 90 % de l'eau qu'on utilise.
Oui, c'est ça. Puis au niveau énergétique, là, évidemment, vous avez aussi des façons de faire. Là. Je pense à des panneaux qui isolent en même temps pour permettre une meilleure au niveau de l'énergie, là, une meilleure consommation d'énergie.
Absolument. En plus, en construisant sur des toits, on isole les bâtiments d'en dessous et on utilise la chaleur qui s'échappe de ces bâtiments-là pour chauffer nos serres.
Exactement. Il y a eu, on parle de 21% d'augmentation du nombre de fermes urbaines au Québec entre 2020 et 2021. Bon, c'est sûr que la pandémie a créé tout un engouement pour la consommation locale, pour la production locale. Alors ça a aidé grandement aussi, évidemment, cette culture, cette agriculture urbaine.
Oui, alors pour nous, ça a été un gros défi parce qu'on a doublé notre clientèle en quelques semaines pendant la pandémie, mais notre équipe s'est adaptée et nos clients ont été très patients avec nous. Donc, ça nous a permis de vraiment élargir la portée des fermes Loufa et de marquer l'importance d'un système alimentaire local.
Ben c'est ça, et vous le faites, évidemment, en ligne. C'est sûr qu'il y a aussi bien des applications qui se sont développées également pour votre système de livraison. Enfin, il y a eu plein d'adaptations que vous avez dû faire au fil du temps.
Oui, absolument. Tous les outils informatiques qu'on utilise, on les crée à l'interne. On est vraiment à l'écoute de nos clients pour essayer de s'adapter à leurs besoins. Mais c'est toujours des adaptations, toujours du changement pour pouvoir être à l'avant de l'innovation aussi optimiser notre service, notre offre.
C'est ça. Donc, vous pouvez, vous êtes en mesure d'offrir des milliers de paniers à des gens qui s'inscrivent, bien sûr, qui s'inscrivent en ligne, qui peuvent recevoir à chaque semaine des paniers des fermes Loufa, donc production locale. Là, vous en êtes, comme on le dit, à votre cinquième serre sur les toits. Et puis, vous avez quand même, c'est immense ce que vous avez développé, là, le centre de distribution, entre autres.
Oui, exactement. On livre environ 30 000 commandes par semaine. On est désormais à peu près 600 employés. On a 2 000 produits sur le marché. On travaille avec à peu près 350 partenaires locaux, donc des boulangers, des fermes partenaires, des producteurs de viande, vraiment pour offrir une offre presque complète à nos loufavores. Et nous-mêmes, dans nos serres sur toit, on cultive une trentaine de variétés de légumes et on a la possibilité de cultiver ces variétés-là toute l'année. Donc, c'est pas juste saisonnier. Les hivers sont rudes au Québec, mais on arrive quand même à offrir plein de produits de légumes, de verdures, même l'hiver.
Oui, c'est ça. Évidemment, bon, au début, on parlait beaucoup de petites pousses, on parlait de toutes sortes de choses, mais là, vraiment, ça s'est étendu à toutes sortes de légumes. Donc, c'est vraiment, vous nous faites aussi découvrir parfois des légumes qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de cuisiner.
Absolument. C'est toujours un peu un jeu d'équilibre, essayer de trouver des variétés qui vont se plaire dans nos serres, mais que nos loufavores vont aussi vouloir consommer. Mais on a fait découvrir tout plein de belles variétés comme des fans de pissenlit, de l'oseille, des variétés qui reviennent un peu à la mode et c'est quand même populaire auprès de nos clients.
C'est ça. Donc, effectivement, la livraison se fait par véhicule électrique en principe, hein? C'est un peu ça?
Oui, en grande partie. Donc, on n'est pas à 100% encore, mais on se dirige vers cet objectif-là. Surtout en ville, on veut réduire les gaz à effet de serre. Donc, on essaie de faire nos livraisons en ville avec des véhicules électriques. On a quand même un grand rayon de livraison. On va jusqu'à Québec, à Gatineau. Donc, pour les plus longues distances, c'est pas des véhicules électriques. Mais pour les distances plus courtes, oui, on se tourne vers l'électrique.
C'est ça. Puis en fait, tout le système d'emballage aussi pour la livraison qui a été amélioré. Là. Alors, je regardais toute la chronologie, finalement, l'histoire des fermes Loufa, là, bon, à partir des débuts de la fondation, tout ça. Et ben, d'ailleurs, les fondateurs, il y avait à la fois, vous savez, ça prend quand même plusieurs têtes hein, quand on fonde une entreprise comme celle-là. Il y avait un entrepreneur et ingénieur. Qui faisait partie des fondateurs. Il y avait un responsable des sciences végétales et de l'agriculture. Il y avait quelqu'un en marketing. Il y avait un superviseur des projets de construction et d'ingénierie. Alors, tout ça mis ensemble, effectivement, bon, déjà, la table était mise pour que ce projet-là prenne de l'expansion. Alors, je vois toute la progression de votre entreprise. Alors, vraiment, c'est aujourd'hui, en 2023, c'est quand même quelque chose, là. C'est tout un écosystème alimentaire urbain complet que vous avez créé. Alors là-dessus, vous êtes vraiment des pionniers. Et puis bon, j'imagine que vous devenez aussi une référence pour les autres.
Oui, puis on est très ouvert au partage. Donc on veut vraiment reproduire ce modèle-ci dans le plus de villes possible. C'est un modèle qui a fonctionné très, très bien, qui continue de fonctionner très bien à Montréal. Et nous, notre vision, notre mission, c'est vraiment des villes vertes avec des serres partout sur les toits pour changer un peu ce système alimentaire. Donc, nous, on est très ouverts au partage, à l'échange avec d'autres partenaires qui font aussi de l'agriculture urbaine pour essayer de reproduire ce modèle-ci.
C'est ça. On dit que, bon, l'agriculture sur les toits, bien sûr, contribue aux différents objectifs de développement durable, de développement durable des villes, mais bon, on peut encore, au niveau de la recherche, je pense qu'il y a beaucoup à faire encore pour maximiser, par exemple, le niveau de rendement, d'utilisation d'eau, de nutriments. Enfin, je pense que ça va se développer de plus en plus.
Absolument, c'est jamais un travail fini. Puis c'est aussi une belle chose. On fait toujours des découvertes. Notre équipe est toujours en train de travailler à optimiser nos processus, à devenir plus efficaces, surtout au niveau énergétique. surtout au niveau de la consommation de l'eau. Donc, de faire en sorte qu'on ne taxe pas trop les systèmes publics et s'assurer qu'on peut toujours avoir un bon rendement et une bonne approvisionner.
Exact, ouais.
Exactement, les loups favores.
C'est ça. L'enjeu, c'est la sécurité alimentaire, bien sûr, et de consommer local. Émilie Péloquin, ça a été un plaisir de vous accueillir. Les fermes Loufa, donc, vous n'avez qu'à aller sur le site et vous aurez tout l'info, effectivement, pour faire affaire avec les fermes Loufa, pour vous faire livrer vos légumes et tout et tout. Merci beaucoup!
Merci à vous!
Ça a été un plaisir. Eh bien, je souhaite à tout le monde une bonne journée. Je vous retrouve demain à la même heure. Nous serons jeudi, avant-dernière journée de la semaine et avant-dernière émission aussi de la saison. Ici Chantal Lavoie à Aime l'été. Alors, c'est ça, je vous retrouve demain entre midi et 13h. Soyez là! Au revoir!